Esta es la historia de una estirpe y su valor, que fue aniquilada en nombre de un solo Dios. Es el sentimiento de una raza que curó viejas tradiciones conservadas con ardor. Pero fue juzgada en cultura inferior, ya fue con mi sangre sometida a ilustración y por miles esposados en su afán de conquistar y por miles desbocados de la tierra, nuestra tierra, esa tierra del eterno. Llegan los colonos, puro corazón, a los poderosos, la tierra verde.
Tomando los ricos los mejores privilegios, dejando a los pobres lo peor. Tomando los ricos los mejores privilegios, dejando a los pobres lo peor.
Jahrhunderte gehen vorüber, die Sprachen ändern sich, die Eroberer sind immer dieselben. Wir sind immer noch in dem Gespräch mit dem Richard Gerster, am entwicklungspolitischen Koordinator von verschiedenen schweizerischen Hilfswerken. Wir reden über den Internationalen Währungsfonds und die Weltbank. Wir haben schon eine ganze Reihe von Punkten können diskutieren. Vor allem auch die Massnahmen, das ganze Massnahmenpaket, das immer wieder vom Internationalen Währungsfonds an den Ländern, die Kredit erhalten, vorgeschlagen wird, wo sozusagen die Bedingung ist, dass die überhaupt einen Kredit bekommen.
Freiheit, Liberalisierung zwischen den ungleichen Partnern, zwischen Reich und Arm oder Mächtigen und Ohnmächtigen. Das heisst letztlich immer, dass der Reiche, der Mächtige seinen Vorsprung kann voll in die Waagschale werfen.
Neben diesen vier Punkten, ich möchte es doch nochmal wiederholen. Also, wir haben den Lohnstopp gehabt, wir haben die Abwertung, wir haben die Öffnung der Grenzen, also Liberalisierung, eine sogenannte. Haben wir auch noch einen weiteren Punkt, das ist die Reduktion der Staatsausgaben. Was heisst das konkret?
Das Primäre ist einmal ein ausgleichendes oder ein ausgleichenderes Staatsbudget herzubringen. Das könnte theoretisch ja auch dadurch angestrebt werden, indem man die Einnahmen erhöht. In Tat und Wahrheit ist es dann aber so, wie du sagst, dass in erster Linie auf der Ausgabenseite angesetzt wird, dass die Staatsausgaben nicht ein gewisses Niveau dann überschreiten, das dann von Land zu Land klar festgesetzt wird. Das Problem dabei ist das, dass am Land, an der Regierung überlassen ist, welche Ausgaben dass es zusammenstreicht. Bis zu einem gewissen Grad redet der Währungsfonds allerdings rein. Das geht dann auf eine mehr informelle Ebene. Und da ist es natürlich von den Machtstrukturen her so, dass in erster Linie Sozialausgaben unter die Räder kommen, also zum Beispiel Gesundheitswesen oder
Subventionierung von Lebensmitteln, ist das richtig?
Grundnahrungsmittel, das ist ein zweiter wichtiger Punkt. Und Militärausgaben, um einen anderen Punkt zu nehmen, die werden da in der Regel gar nicht angetastet. Im Gegenteil, es kann ja dazu führen, dass die sozialen Minderausgaben zu sozialer Unruhe führt in den entsprechenden Ländern. Und man muss dann als Gegenzug Polizeiaufwendungen oder Militäraufwendungen erhöhen, damit die Regierung eben das eigene Land wirklich im Griff hat und kann an der Macht bleiben.
Und wenn man von Reduktion von Staatsausgaben redet, dann muss man darunter auch verstehen, die Reduktion vom Aufbau von einer eigenen Infrastruktur. was ja eigentlich Straßen umfasst, was Schulen umfasst, was bis zu Abwässer, Wasserversorgung, all die Elemente, die mitspielen bei einer Reduktion der Staatsausgaben.
Jawohl. Und das Wichtige ist eigentlich, dass der gespart wird, wo am wenigsten politische Widerstand zu erwarten ist.
Das heisst auf dem Kopf der Armen.
Ganz klar, und vor allem auf der ländlichen Schichten, weil in vielen Ländern ist ja das städtische Proletariat noch stärker organisiert und es wird vor allem schneller eine politische Kraft, weil die städtischen Schichten organisierbar sind. Das hat auch zu den verschiedenen Aufständen ja schon geführt, wenn zum Beispiel Grundnahrungsmittel-Subventionen gestrichen worden sind oder wenn der Lohnstopp eingeführt worden ist und dann eigentlich ein Reallohnabbau voll war von dem. Dann nachher haben die städtischen Schichten reagiert. Aber die Bauern auf dem Land, die sind nicht organisiert und die sind dann in diesem Bereich natürlich letztlich die Verlierer.
Ein Punkt, der immer wieder in Diskussion kommt, wenn man vom Internationalen Währungsfonds redet, das ist auch die Frage der Inflation. Jetzt, die Inflation, was ist das? Das ist eine Frage, die... Wie funktioniert die Inflation? Wie entsteht sie? Wie kann sie bekämpft werden? Und was hat das für eine Wirkung, wenn der Internationale Währungsfonds zum Beispiel sagt, man muss verhindern, die Inflation in Argentinien, die 200-300% pro Jahr erreicht hat?
Es sind ein bisschen viele Fragen auf einmal gewesen. Inflation ist im Wesentlichen eine Aufblähung vom Geldkreislauf gegenüber der Gütermenge, die im Land existiert. Wenn man davon ausgeht, man hat ein bestimmtes Volumen an Gütern in einem Land und man hat eine bestimmte Geldmenge und erhöht dann die Geldmenge, dann ist es klar, dass nachher die Preise für die einzelnen Güter steigen müssen, weil ja mehr Geld zur Verfügung steht in Bezug auf eine konstante Gütermenge. Die Inflation ist darum so ein wichtiger Faktor in der ganzen Währungsfondsstrategie, weil über inflationäre Preiserhöhungen Konkurrenzfähigkeit von einem Land leidet. Also wenn Inflation herrscht, in Brasilien beispielsweise, dann nachher werden ja die brasilianischen Produkte immer teurer gegenüber dem Ausland und damit sinkt die Konkurrenzfähigkeit. Das kann allenfalls ausgeglichen werden durch Abwertungen gegenüber dem Ausland, aber solange das nicht parallel geht, leidet die Konkurrenzfähigkeit und damit eben die Exporteinnahmen und die Zahlungsfähigkeit vom Land.
Leiden neben der Konkurrenzfähigkeit nicht vor allem auch alle die Leute, die schon bedroht sind durch den Lohnstopp, dass die mit ihren Forderungen mehr zu verdienen. Güter werden ja teurer durch die Inflation, auch die Lebensmittel werden teurer. Alles, was man braucht zum Überleben, das wird teurer. Parallel dazu redet man vom Lohnstopp und eben das Phänomen von der Inflation. Die Preise springen im Prinzip an denen, die Lohnverdiener sind. Die Preise laufen denen davon.
Das gehört genau in diesen Zusammenhang. Das Primäre ist einfach natürlich die Exportförderung vom Währungsfonds, wo anvisiert wird. Und alles andere sind dann nachher Folgen oder Konsequenzen eigentlich, dass auch die Exportförderung natürlich auf Kosten von der Arbeiterschaft betrieben wird und die über eine Durchinflationierung von der Wirtschaft auch zur Kasse gebeten werden und auch müssen beitragen, dass nachher die Exportförderung tatsächlich Platz greift.
Im Gegensatz also zur Weltbank steht im Internationalen Währungsfonds ein Europäer vor. Wer ist das jetzt und wie ist das Gremium also vom Internationalen Währungsfonds überhaupt kontrolliert? Wer kontrolliert das?
Im Moment ist der geschäftsführende Direktor ein Franzose, Jacques de Larosière, mit Namen. Die Kontrolle vom Währungsfonds ist ähnlich organisiert wie die von der Weltbank, wo wir vorhin darüber geredet haben.
Das heisst, es gibt sozusagen keine?
Der Währungsfonds ist in den Händen der Industrieländer, der Gläubigernationen. Eben die Industrieländer müssen wir eigentlich noch ergänzen durch die arabischen Nationen, speziell Saudi-Arabien, als neue Gläubiger, die unterdessen auch einen gewissen Einfluss gewonnen haben, auch im Währungsfonds und in der Weltbank.
Das Geld, das der Internationale Währungsfonds zur Verfügung hat, von wo kommt das? Du hast gesagt, schon gut von den Ländern, aber gibt es da auch Privatbanken, die ganz massiv Kredite am Internationalen Währungsfonds zur Verfügung stellen, damit der das kann einsetzen kann? Und ich kann mir vorstellen, einen einfachen Mechanismus, zum Beispiel die Schweizerische Bankgesellschaft stellt 1 Milliarde, nehmen wir jetzt mal eine Zahl an, irgendeine, zur Verfügung am Internationalen Währungsfonds zu einem gewissen Kredit, zu einem gewissen Zinssatz auch, muss ich sagen. Der Zinssatz wird er dann direkt weitergeben vom Internationalen Währungsfonds oder tun die dann noch den Zins erhöhen?
Es ist so, dass im Gegensatz zu der Weltbank der Währungsfonds kein Geld auf dem privaten Kapitalmarkt aufnimmt. Er hat ausschließlich Regierungsgelder. Das ist eine Frage, die viel diskutiert worden ist, aber man ist bisher strikt bei dem geblieben, und zwar, weil man eigentlich Befürchtungen hat von anderen Einflüssen, die nach einer eben Rücksichtnahme auf private Kapitalgeber könnte reinkommen, die man im Regierungskreis bisher abgelehnt hat.
Aber wenn jetzt also das Land Geld zur Verfügung stellt, stellt es das ja zur Verfügung mit einem Zinssatz, wird er dann einfach übertragen aufs Entwicklungsland oder tut da der Internationale Währungsfonds noch einen Zuschlag machen?
Es gibt Mischrechnungen. Und natürlich tut der Währungsfonds etwas dazuschlagen, in dem Sinn, dass er seine eigene Organisation muss können finanzieren muss. Dazu wird auch ein gewisses Reservepolster eingerechnet. Aber es ist nicht so, dass der Währungsfonds beispielsweise der einzelnen Länder noch müsste, Dividenden ausschütten müsste.
Und jetzt redet man ja immer mehr von der Gefahr von einem Moratorium im Zusammenhang mit dem Internationalen Währungsfonds. Das sind ja Länder wie Brasilien, die, glaube ich, mit etwa 98 Milliarden Dollar verschuldet sind. Argentinien, wo es auch fast gegen 90 Milliarden Dollar bringt. Es gibt eine ganze Reihe von Entwicklungsländern. Mexiko ist auch sehr, sehr stark verschuldet. Man redet immer mehr von einem Moratorium. Erstens mal, was ist ein Moratorium? Und zweitens, was hätte das für Konsequenzen?
Also das Moratorium ist eigentlich eine formelle Einstellung von der Amortisation und der Verzinsung von einer Schuld. Man würde sich formell zahlungsunfähig erklären und eben keinen Schuldendienst mehr leisten. Das hätte sehr weitreichende Folgen, indem vermutlich einmal die Länder oder ein Land, das ein Moratorium einführt, nur noch könnte Import tätigen in dem Umfang, wie es gerade bar zahlen kann. Aber sonst überhaupt keinen Kredit mehr überkommt und unter Umständen aus politischen Gründen würde ich wahrscheinlich probiert, sogar noch das abzublocken, dass auch auf einer Bargeldbasis das überhaupt möglichst von allen Importen abgeschnitten würde. Und das hängt dann sehr vom einzelnen Land ab, was es importiert, wie vital dass die ausbleibenden Importe sich auswirken. Also wenn beispielsweise Nahrungsmittel, Grundnahrungsmittel für städtische Schichten importiert werden, dann nachher hält das ein Land natürlich nicht lange durch. Oder wenn es um die Öleinfuhren geht und das Land schon recht weit industrialisiert ist im Moment, also dass sehr viele Arbeitsplätze von dem abhängen. Und dann kann die ganze Industrie unter Umständen in der kürzesten Frist lahmgelegt werden. Und ich würde meinen, das ist zum Beispiel im Fall von Brasilien und vor allem Brasilien, aber auch von Mexiko, sind die beiden Faktoren, Nahrungsmittel und Energieimport, auch ganz wichtige Überlegungen, dass man eben bisher Abstand genommen hat vom Moratorium. Argentinien, wo ja heutzutage sehr hart verhandelt mit den Gläubigern. Argentinien ist eben da ein bisschen in einer komfortableren Lage von der Importstruktur her und hat durch das eine größere Verhandlungsmarge.
Es wird immer wieder geredet von einem Kartell der Schuldnerländer, das möglich wäre. Was hat das für einen Vorteil? Sicher haben die Industrienationen Angst vor dem, wenn sich die Schuldnerländer würden als Kartell organisieren
würden. Es würde einfach die Macht der einzelnen Länder addieren eigentlich. Und zwar die Schuldnermacht, ja, nicht die Gläubigermacht, weil vor allem die amerikanischen Banken stark exponiert sind gegenüber Lateinamerika vor allem. Müssen sie dann gegenüber einem Schuldnerkartell, wenn das zustande käme, sehr starke Konzessionen machen, würde ich meinen. Aber das Problem ist auf Seite der Schuldner, dass eben die Interessen überhaupt nicht parallel laufen. Also während Argentinien vielleicht noch in die Richtung könnte gehen, ist offensichtlich ein Land wie Brasilien so stark importabhängig, dass sie meinen, sie können sich das nicht leisten. Und durch das würde ich, meine ich persönlich, meine, da muss die Situation sich noch stark verändern und noch stark verschlimmern, dass Brasilien oder auch andere Länder wie Mexiko das Gefühl haben, sie können aus einem Moratorium mehr gewinnen als aus den jetzigen pragmatischen Taktieren.
Das Bankenwesen hat eine sehr lange Geschichte. Man kann sich erinnern, dass Pfucker schon im Mittelalter verschiedene Königshäuser gestürzt haben oder an der Macht gehalten haben durch Kredit, die sie zur Verfügung gestellt haben. Banken im 20. Jahrhundert über den Internationalen Währungsfonds, über die Weltbank, über die Bank für internationalen Zahlungsausgleich, nochmal ein Begriff, nochmal etwas, das dazukommt, aber wir gehen jetzt nicht darauf ein, und verschiedene andere Kreditformen, wo Drittweltländer oder anderen Nationen erteilt werden. Banken haben ja in den letzten 20 Jahren, kann man sagen, ihre Macht unwahrscheinlich ausbreitet. Und kann man sagen, dass im Prinzip Banken und der Internationale Währungsfonds, der Weltbank und die Gremien, die da geschaffen worden sind, im Prinzip Fucker vom jetzigen Zeitalter sind und über die Zukunft der einzelnen Länder, die ja nicht mehr Kolonien sind, wie es heisst, entscheiden können.
Ich bin wirtschaftshistorisch zu wenig versiert, um den Vergleich mit den Fugger bestätigen oder verwerfen. Aber die Institution des Internationalen Währungsfonds ist sicher von mir aus gesehen die einflussreichste, die mächtigste gegenüber der dritten Welt. Und man hat schon verglichen Kreditbedingungen, die heute der Internationale Währungsfonds durchsetzt, also im Rahmen der Wirtschaftspolitik der Entwicklungsländer, dass man das vergleichen mit den Kanonenbooten, die früher von der Kolonialmacht gegenüber säumigen Schuldner eingesetzt worden sind.
Eroberer kommen, um den Frieden zu töten. Aus dem Volk wird sich eine Stimme erheben, die schreit Freiheit. Die Übersagten eignen sich alle Privilegien an. Die Mächtigen enteignen die Wehrlosen. Sie verweigern die wichtigsten Rechte, die Freiheit.
Das ist also die Sendung zum 40-jährigen Jubiläum, kann man fast sagen, vom Internationalen Währungsfonds und von der Weltbank. Ein Gespräch zwischen Hannes Lämmler und Richard Gerster, einem entwicklungspolitischen Koordinator von verschiedenen schweizerischen Hilfswerken.
Und der Haifisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Und Mackies, der hat sein Messer, doch das Messer sieht man nicht. Ach, es sind.
Auch wichtig, wenn man weiss, dass das Bankenwesen immer mehr über Glück und Unglück in der dritten Welt und über die Entwicklung von unserer Gesellschaft entscheidend.
Dans cette région. Alors je crois que avant toute chose, c'est un combat contre cette montée. C'est aussi un combat pour être différent. Je crois que là, il est bon de préciser que nous nous situons à gauche sans ambiguïté aucune. C'est vrai, mais ceci ne nous empêche pas d'être critiques et d'être surtout différents. Et je crois que par rapport à la social-démocratie ou à ceux qui se réfèrent à ce que j'appellerais le centralisme démocratique, il y a une montée d'autres choses. Nous disons que ça suffit que les gens soient là en attendant. Attendre des choses, des réalisations, je crois qu'il faut leur dire qu'il faut leur montrer qu'on peut passer du stade de consommateur de la vie municipale ou de la vie de l'entreprise à un stade d'acteur, d'actif. Et je crois que bon, c'est ce que personnellement, un certain nombre de copains, on essaye de faire par exemple au niveau de la municipalité, que ce soit des commissions ouvertes au public, que ce soit des réunions publiques où tout le monde peut participer, ou que ce soit un référendum que nous venons de lancer avec un certain succès, ou toute une série d'autres expériences. Je pense qu'on parle souvent d'utopie, mais à mon avis, c'est ça, des utopies réalistes, des utopies qu'on essaye de vivre sur le terrain. Et je pense aussi très fermement que, pour moi, l'apprentissage de la démocratie, et je dirais l'autogestion, c'est ça. C'est ce qu'on vit tous les jours. Et évidemment, je crois qu'il est tout à fait normal qu'on se retrouve dans cette foule d'idées que nous professons à l'occasion de ces européennes, que ce soit les 35 heures ou la solidarité des cultures, le droit des immigrés, etc. Enfin, développer le droit des femmes, la défense de l'environnement. Je pense qu'on peut évoquer tous ces points tout à l'heure au niveau du débat. J'en citerai simplement l'un ou l'autre au niveau de la crise. Je crois qu'il y a 15 jours, j'étais à une assemblée générale de la CMDP et j'ai été interrompu par quelques contestataires de droite qui ça ne faisait pas plaisir d'entendre un certain nombre de choses. Et j'avais dit ceci, que à mon avis, c'est pas la peine de se leurrer. La crise, elle existe, elle est là, elle existe dans notre monde capitaliste, mais elle existe aussi dans les pays en voie de développement. La hantise de la faim guette environ 800 millions d'hommes. Je crois qu'il faut le savoir, et je pense qu'il ne faut pas se leurrer, et qu'il n'y a pas 36 solutions. Une des solutions, c'est la droite qui essaye de l'évoquer, c'est l'élimination des plus faibles. On commence par les immigrés, on continue par les handicapés, et puis on poursuit par ceux qui sont placés au plus bas de l'échelle sociale, et ça se termine, je crois qu'il faut le savoir, ça se termine tout simplement par une guerre. Quand il n'y a plus assez de gens à éliminer, eh ben je crois qu'il faut trouver une autre solution. Ces derniers temps, j'ai vu avec satisfaction que les incorporés de force, et il y en a peut-être dans la salle, qui ont eu avec satisfaction, eu enfin gain de cause. Le gouvernement de gauche a réussi à mener à bien des tractations qui duraient depuis des années. Je pense que c'est une bonne chose. Mais au-delà de cet aspect financier, je pense qu'il serait bon que ces incorporés de force nous rappellent qu'ils ne voudraient plus jamais à nos jeunes, qu'ils ne voudraient plus jamais cette guerre et ce fascisme que nous avons vécu ici en Alsace. Je crois que nous avons connu l'occupation nazie et nous sommes obligés bien placés pour dire plus jamais de ça, plus jamais de Le Pen, de Bader ou de gens RPR qui sont là pour écraser les autres. Je crois que c'est important pour nous parce qu'on l'a connu, on l'a vécu dans notre chair. Je pense qu'il y a une autre solution par rapport à cette crise. C'est effectivement ce qu'on a essayé d'évoquer tout à l'heure. Je crois qu'il n'y a pas 36 solutions. Il faut abaisser le temps de travail. Il faut se partager le temps de travail. Dans le temps, on pouvait vivre à des rythmes absolument effrénés, à des conditions de travail absolument dingues. tout simplement parce qu'on arrivait à vivre après. Enfin, on avait l'impression de vivre après. Hein. On pouvait s'acheter le frigidaire, la télévision, un tas de gadgets de ce type. Et puis, ça compensait un petit peu. Mais aujourd'hui, je crois que la croissance s'est arrêtée en 73. On s'en est même pas rendu compte. C'est aujourd'hui qu'on s'en rend compte. Eh bien, je crois qu'il est temps à la fois de partager un petit peu mieux le temps de travail, mais il est aussi temps de partager d'une manière différente le pouvoir et aussi les revenus. Et souvent on dit à l'heure actuelle, il n'y a plus d'entrepreneurs, il n'y a plus de patrons, ça ne marche plus, etc. Mais je voudrais aussi vous dire un aspect un petit peu plus positif. Ces derniers temps, on a fait à Lutherbach un stage d'insertion sociale sur des jeunes de 16-21 ans qui n'avaient plus de travail, qui n'avaient plus, pas de travail, qui ne voulaient plus aller en classe. Et autour de ce stage, on s'est très vite rendu compte que l'entreprise traditionnelle n'était absolument pas adaptée à la situation, qu'elle ne pouvait pas s'adapter à cette situation. Mais par contre, il y avait toute une série d'autres entrepreneurs, des gens qui se sont mis ensemble et qui ont réfléchi sur des schémas différents d'intégration, des schémas de travail différents, et là, ils sont en train de se mettre en place des projets de coopératives de distribution, des projets de... Il y a des jeunes, 3 ou 4 jeunes, ont suivi un stage d'insertion dans un atelier de tricotage. Il y a un certain nombre de copains de la coopérative de Champ de Merle qui sont d'ailleurs dans la salle, une coopérative de Longuemaille, et ils ont appris en 3 semaines à tricoter ces jeunes, des jeunes qu'on disait handicapés en une certaine mesure. Et en 3 semaines, ils ont réalisé 12 pulls et ils ont réussi à les vendre lors d'un dernier marché. Et avec ces gens, on va essayer de monter une petite coopérative, mine de rien, où les gens se prennent en charge et vivent autrement. Mais on s'est rendu compte aussi que parallèlement, que économiquement, ces projets ne tiennent pas parce que ces jeunes vivent, travaillent à un rythme beaucoup plus lent. Bien, je crois que là aussi, l'État a à faire des efforts et à donner peut-être des aides à ces entreprises pour compenser ce manque de rythme. Et là, à mon avis, on s'y retrouvera parce qu'au lieu de payer des gens à ne rien faire, on paiera peut-être des gens à travailler autrement. Je pense que c'est ce genre d'expérience que nous pouvons vivre, pas seulement chez nous en Alsace, et nous sommes en relation, et je viens au niveau européen, avec d'autres coopératives qui sont situées en Suisse, qui sont situées en Autriche, qui sont situées au Portugal, où parallèlement on essaye d'avoir des échanges avec eux pour montrer qu'on peut vivre et qu'on peut travailler autrement. Au niveau des énergies, c'est tout à fait la même chose. Vous savez qu'à Lutherbach, on a un projet de géothermie, mais en étudiant ce projet de géothermie, on s'est rendu compte que toute la plaine d'Alsace, on pourrait avoir des projets de géothermie si on veut bien le faire. Mais non seulement en Alsace, mais également des possibilités en Suisse. Et que la Suisse ne sert pas seulement à placer notre argent, mais ça sert peut-être aussi, enfin pas le nôtre, mais enfin ceux d'un certain nombre de copains, situés ailleurs, mais il y a également des possibilités d'énergie différentes où l'économie suisse pourrait se prendre en charge elle-même. Je crois que c'est toutes ces données qu'on peut développer au cours de cette campagne. On peut aussi, bien que ce n'est pas un slogan électoral, quand on parle de la solidarité avec les immigrés, j'ai quelque chose aussi qu'un certain nombre de nous vivons tous les jours. Et je reviens à mon expérience municipale. Pendant cette campagne, j'ai été durement attaqué pour ces problèmes des immigrés. Bon, les gens m'ont montré sur des tracts en train de jouer au violon, déguisés en gitans, ou alors on sortait un certain nombre d'anecdotes assez cocasses, enfin, ce genre de blagues qu'on commence à raconter dans les rues, et ensuite qui prennent un petit peu plus de puissance et plus d'importance. Eh bien, je crois que la meilleure réponse a été donnée par les immigrés eux-mêmes, et par les gitans eux-mêmes, qui ont, je les ai ici, qui ont sorti pendant la campagne un tract qui disait tout simplement ceci, enfin ils l'ont dit beaucoup mieux que moi, à leur manière, que dans ce village, finalement, ils n'ont pas eu de privilèges bien particuliers, parce que là aussi, il faut être clair, il faut être rigoureux, ils ont aussi des règles de jeu à accepter, comme nous tous. Je crois que si on vit dans un grand ensemble, il faut être rigoureux pour tout le monde. Et si les gens, si un immigré continue le ramadan jusqu'à 2-3 heures du matin, il faut avoir le courage de lui dire, il faut avoir le courage de lui dire « ça ne va pas ». Mais en même temps, je pense qu'ils ont aussi le droit d'exister. Et ces immigrés, ils ont dit ceci, on a compris que dans ce village, on avait les mêmes devoirs, mais on avait également les mêmes droits. et ses mêmes droits, et je crois que c'était tout. Il ne demandait pas plus. Et ces derniers temps, on l'a concrétisé d'une autre manière, on a fait un référendum municipal pour les passages à niveau, vous l'avez peut-être lu dans la presse, vu dans la télévision. Et bien ce référendum, on a également donné le droit de vote à ceux qui habitent le village, c'est-à-dire les immigrés et naturellement les Français et les Alsaciens. Et donc tout le monde a eu le droit, je fais parfois la nuance, c'est fait exprès, je pense que tout le monde avait le droit de voter et tout le monde, je pense, que a pu participer à cette vie municipale. Et c'est comme ça qu'on a ressenti, encore une fois, ce thème de passer du stade de consommateur au stade d'acteur. Je pense qu'on l'a vécu, dans notre vie de tous les jours. Et je pense que ceci, nous avons l'occasion de non seulement de le dire pendant la campagne, mais on avait l'occasion de le vivre avant et nous aurons l'occasion aussi de le vivre après. Et là, pour terminer, je voudrais encore rappeler autre chose. Je pense que vous savez, un certain nombre sont au courant que j'ai eu l'occasion d'assister à un procès de masse en Turquie, un procès intenté contre la population d'un village, d'une ville de 28 000 habitants, qui avait tenté également une expérience autogestionnaire à Fatsa, c'est près de la mer du Nord, de la mer Noire, je veux dire. Qui ont été, il y a 763 personnes qui sont inculpées et 260 peines de mort qui sont requises. Bon, depuis, je fais un certain nombre de réunions pour essayer de dire ce que j'ai vécu. Je ne vais pas vous raconter ce procès, on aura peut-être d'autres occasions d'y revenir, mais il faut savoir qu'à ce moment même où je parle, où nous sommes là tranquillement assis derrière cette table, il y a des gens qui sont en train de crever dans les prisons turques, qui sont en train d'être torturés malgré ce régime soi-disant démocratique, soi-disant, et je crois que là il est important qu'en Europe s'élèvent des voix et le disent et le dénoncent, ici en France pour commencer, mais aussi par rapport à nos copains, par rapport à nos gens en Allemagne, où là il y a un régime un petit peu différent, parce que bien souvent on est critique par rapport à la gauche française, mais quand vous allez en Allemagne, vous comprenez ce que ça veut dire de ne plus avoir le régime de gauche, parce qu'actuellement c'est parfois des avions entiers de Turcs qui sont renvoyés dans leur pays et qui automatiquement sont là repris en charge et vont en prison, ils sont torturés. Et je crois que nous sommes responsables. Quand on a vécu, quand on a vu ces gens, quand on a vu leur regard, le geste d'amitié qu'ils voulaient vous transmettre, je pense qu'on se sent responsable et on se dit, il faut faire quelque chose, il faut se battre pour eux et il faut se battre en se disant aussi, cette déstabilisation que les Turcs ont connue, eh ben nous aussi, toute proportion gardée, nous sommes en train de le vivre dans notre pays, à différents niveaux. Pas plus tard que 15 jours, 3 semaines, j'ai appris que les mouvements d'extrême droite turque sont là, présents dans notre région. Ils étaient à Strasbourg, ils étaient à Colmar, ils sont à Mulhouse. Et quand je dis des mouvements, c'est pas de la rigolade, ça ne se passe pas seulement en collant des affiches fascistes, ça se passe avec barre de fer et fusils et revolvers, etc. C'est des gens qui sont extrêmement dangereux, qui sont là à la fois pour dénoncer à la fois leurs copains démocrates turcs qui sont là, pour les ficher et pour les faire éventuellement quand ils rentrent dans leur pays, pour qu'ils soient tout de suite pris en charge par le régime policier. Et je crois que automatiquement on peut faire le parallèle avec la montée de la droite, où il est l'extrême droite dans notre pays. Alors je crois que ce qui se vit dans ces pays, ce qui se vit aujourd'hui chez nous par rapport au mouvement d'extrême droite turc, eh bien, je crois que le danger, ça existe aussi chez nous. Et quand on se bat un petit peu quand on se bat un petit peu beaucoup, parfois aussi, pour les immigrés, pour les Turcs, pour la démocratie turque, on se bat aussi d'une manière égoïste pour la préservation de nos droits les plus élémentaires. Et je pense que c'est un petit peu cela, l'enjeu de notre campagne, l'enjeu de ce message que nous essayons de transmettre, en disant que souvent on se dit oui c'est bien joli ce qu'ils sont en train de dire, mais enfin au moment du vote, et on n'ose jamais le dire dans des réunions comme ça, au moment du vote, eh ben, il faut voter utile, il faut voter, etc. Moi je prétends qu'un vote utile, c'est un vote qui correspond à une conviction, à une analyse politique et aussi à un combat quotidien. Et si nous voulons enfin que ça change, eh bien, je pense qu'il faut aussi le manifester parfois par un bulletin de vote. Et au-delà du bulletin de vote, aussi j'en profite pour dire qu'on était toujours très discret au niveau du PSU, au niveau des militants, des sympathisants, etc. Parce que nous n'avons pas la même démarche que d'autres. Mais là aussi, j'ai envie de vous dire ce soir, j'espère que vous n'êtes pas là pour consommer seulement comme ça une bonne soirée, ou plus ou moins bonne, ça dépend de ce que vous pensez de nous, mais que pour consommer une soirée, ensuite on lit les tracts, qui sont d'ailleurs, un certain nombre sont très bien, qui ont été distribués à l'entrée, mais aussi pour participer, que ce soit à l'intérieur du PSU ou autre. J'ai vu là le comité de coordination d'Amérique centrale qui était là, et je pense que c'est avec ces gens, ces différents mouvements, de participer aussi concrètement à la vie sociale et à la vie politique tout court, chez nous, en France et en Europe, parce que je pense que les frontières, je ne sais pas où elles commencent ni où elles s'arrêtent. Je pense qu'on est un certain nombre de personnes ici sur Terre qui cherchons à, non seulement à survivre, mais à vivre autrement. C'est un petit peu ceci que nous essayons de traduire au niveau de cette campagne. Alors bon, je m'arrête là et je vais passer la parole à...
Moi, je vous dirai tout de suite ce que vous savez déjà, c'est que je ne suis pas alsacien, mais à plusieurs reprises, je suis venu en Alsace et je découvre particulièrement ce soir une connivence, une complicité avec quelqu'un comme Roger Winterhalter, que je connais, il le disait, avant même qu'il ne soit maire de Lutterbach. Et lorsque, même si l'on n'employait pas encore à l'époque le terme d'autogestion, on sentait que ça flottait quand même dans l'air, ça flottait dans l'atmosphère. Hein. Et pendant qu'il parlait, je me disais tout d'un coup, quel honneur que d'être représenté, déguisé en ceux avec lesquels on est lié, déguisé en gitan, déguisé en quelqu'un qui est regardé comme vraiment marginal, comme en dehors. Vous savez, à peu près de la même manière que l'on disait d'un certain archevêque d'Alger qui vit encore, Mohamed Duval, durant la guerre d'Algérie. Et alors, tout de suite, pour moi, je dirais que c'est le monde entier, avec sa foule d'êtres humains, dont au moins 30 millions meurent chaque année victimes de la famine, dont tant d'autres sont torturés, méprisés, asservis. C'est donc le monde entier, plus encore que la France, qui me conduit à voir qu'il faut réaliser l'Europe. Je suis, moi, d'abord, ou j'essaie d'être, passionné du Rassemblement fraternel des peuples, de l'humanité, avec tout ce que ce mot représente de résonance chaleureuse. Or, que voyons-nous en ce moment? C'est que cette humanité se constitue sous forme impériale. C'était jadis les aigles romaines, puis les aigles napoléoniennes, puis toujours cet animal prédateur, l'aigle nazi. Et c'est à l'heure actuelle, beaucoup plus prosaïquement, c'est l'empire du marché, dont nous connaissons le nom très noble, le monde libre. Et par l'hégémonie du dollar, ce monde libre subsiste d'une certaine manière chez son ennemi déclaré, l'autre empire, qui ne pratique pas la mise en commun, mais je dirais plutôt la mise au pas. et les représentants officiels du monde libre. Il y a en particulier celle qui est la déléguée du président Reagan à l'ONU. Les représentants donc officiels du monde libre font circuler toute une thèse qui ne manque pas d'un impact chez bien des couches de l'opinion publique et en particulier les déçus d'une ancienne ferveur révolutionnaire. Et cette idée, c'est la suivante. C'est qu'un peuple, un petit peuple, ainsi le Nicaragua, un peuple affranchi de la domination des États-Unis d'Amérique du Nord par dictature militaire interposée, ne pourrait que tomber dans la sphère d'influence du bloc récupérateur des causes de libération populaire. Alors, dans cette idée-là, mieux vaudrait le statu quo. Eh bien, c'est pour éviter que des peuples du tiers-monde soient sommés de choisir entre deux types d'hégémonie que l'Europe est indispensable. Mais non pas n'importe quelle Europe. Alors, je pense que les principales nations européennes ont une chance parce que les unes après les autres, elles ont été obligées à renoncer au rôle primordial qui était le leur, au rôle directorial dans les affaires mondiales. Aujourd'hui, la puissance économique, les grandes innovations technologiques se concentrent autour du Pacifique, alors que les pays pauvres, misérables d'Afrique, d'Asie, d'Amérique du Sud vont de faillite financière en faillite financière en cascade. Alors, à ce moment-là, nous pouvons nous dire, puisque l'Europe ne dispose pas d'une puissance et qu'elle vit sur les acquis de sa suprématie, c'est le moment d'exercer un autre type de pouvoir radicalement différent. Et ce type de pouvoir, c'est celui d'une communauté, non pas de technocrates, non pas d'experts, non pas de notables, mais une communauté de peuples unis dans le refus d'une subordination aux impératifs du marché, même respectueux des formes démocratiques. Et dans un monde placé sous le signe de la domination, l'Europe, non soumise au despotisme pseudo-révolutionnaire, est à l'heure du choix. Vous savez, on parlait tout à l'heure du centralisme démocratique. Je sais que la meilleure définition que j'en connais, c'est celle-ci. Vous savez ce que c'est, le centralisme démocratique? Eh bien, c'est le seau d'eau que le type du dixième étage d'un grand bâtiment fait tomber sur la tête de celui qui est au premier étage, et puis il exige que le tout remonte avec le même contenu. Alors, je dirais que c'est l'heure du choix pour notre Europe, c'est l'indépendance à l'égard d'une liberté confisquée par le profit. Et les mutations en cours dont il était question tout à l'heure, ces mutations doivent être l'objet d'interventions actives du mouvement ouvrier pesant de tout son poids au niveau où se prennent les décisions. C'est là que j'y reviens, qu'il est extrêmement important que les travailleurs et ceux qui les représentent s'accordent et au niveau européen s'accordent sur la traduction d'un progrès dans la ligne d'une plus large humanité, c'est...